aujourd'hui avec le père Baptiste Pochulu.
Chers auditeurs, nous nous retrouvons pour cette dernière heure mariale de notre semaine, accompagnée de Charles Journet dans ses entretiens sur Marie, publiés aux éditions Paroles et Silence. Nous terminons ce chapitre sur la Vierge Marie dans la vie chrétienne et la vie du prêtre, pour approfondir maintenant cet aspect du cœur marial pour porter la soif du salut du monde. Le cardinal Journet nous dit « Il est une chose qu'il nous faut supplier Dieu de nous obtenir, c'est ce que les auteurs spirituels appellent l'oraison du cœur. Il faut, Jésus l'a dit, il faut toujours prier. » Non pas toujours dire des paroles prononcées, non même pas toujours dire des paroles intérieures qu'on peut jeter comme des flèches dans le ciel de l'amour de Dieu. Par exemple, en attendant un autobus ou un guichet, au lieu de perdre du temps surnaturel ou de s'impatienter, ce qui est encore pire, je peux penser un Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Mais il existe une forme de prière plus radicale et plus intime. C'est ce qu'on appelle l'oraison du cœur, c'est-à-dire cette inclination intérieure, cet instinct intérieur indélibéré qui surgira par exemple dès le matin au moment du réveil. Je dors, mais mon cœur veille. Pour comprendre, prenons des exemples dans la vie naturelle. C'est Bergson qui parle de l'instinct maternel. Vous avez une maman dont le petit enfant dort, peut-être à deux chambres plus loin que la sienne. Un simple gémissement du petit enfant réveille la mère. Mais, continue Bergson, une fanfare serait passée dans la rue qu'elle aurait continué de dormir. Pourquoi ? Parce qu'il y a en elle cet instinct du cœur, et le petit enfant aussi pourra le sentir. Par exemple, il joue sur le tapis et sa mère est en train de coudre. À un moment donné, elle voit qu'il est très intéressée et elle s'en va. Tout de suite, l'enfant sent qu'elle n'est plus là. Quand cet instinct du cœur nous est donné, profondément, continuellement, quelle liberté intérieure! Tout ce que nous avons à faire, nous le faisons dans une sorte de paix transcendante qui permet de hiérarchiser les occupations et de voir celles auxquelles il faut d'abord aller. Il faut demander à la Vierge Marie qu'elle fasse descendre dans nos cœurs cet instinct profond de la prière, cette orientation qui, comme l'aiguille de la boussole, sait toujours trouver sa direction. La piété orthodoxe, grecque et slave, est toute empreinte du même amour de la Vierge Marie qu'au besoin elle nous rappellerait si un œcuménisme mal compris nous le faisait oublier. Je vous lis ce qu'on vient de publier de la vie d'un moine de Latos, appelé Silouane. C'était un paysan russe entré au mont Athos après son service militaire. Il fut meunier pendant une quarantaine d'années. Il avait sous ses ordres 200 pauvres, des serviteurs qu'il employait pour un gain dérisoire. C'étaient tous de pauvres gens, et lui-même travaillait pour envoyer un peu d'argent à sa mère. Il ne pouvait pas changer leur situation, mais il y avait son cœur. Ce que Dieu fit en lui est très beau. Dieu lui commandait d'être toujours, par la pensée, comme en enfer. L'enfer ne mordait pas sur lui, mais il ne supportait pas qu'il y ait une âme damnée. Il vivait dans cette nuit éprouvante que Dieu lui donnait. Voici ce qu'il écrit lui-même de la Vierge Marie, la Théotokos. Bien que la vie de la Mère de Dieu soit comme voilée par un silence sacré, le Seigneur de notre Église orthodoxe nous a cependant donné de savoir que son amour embrasse le monde entier, que dans l'Esprit Saint, elle voit tous les peuples de la terre et que tout comme son Fils a de la compassion pour tous les hommes. Je ne mens pas, je parle devant la face de Dieu que mon âme connaît. En esprit, je connais la Vierge toute pure. Je ne l'ai pas vue, mais le Saint-Esprit m'a donné de la connaître, ainsi que son amour pour nous. Sans sa miséricorde, il y a longtemps que j'aurais péri. Mais elle voulut me visiter et m'exhorter à ne plus pécher. Elle me dit « Je n'aime pas voir ce que tu fais ». Ses paroles étaient calmes et douces, mais elles agirent avec force sur mon âme. Plus de 40 ans ont passé depuis, mais mon âme ne peut oublier ces paroles remplies de douceur. Si vous voulez, c'est comme le « j'ai soif » de Jésus sur la croix. Comment le comprendre sinon à la manière de Sainte Catherine de Sienne? De quoi Jésus avait-il soif? Bien sûr, au-delà de la soif physique, il avait soif du salut du monde, de tous ceux à qui serait présentée la rédemption et qui la refuseraient. Cette souffrance de Jésus, Scitio, c'était pour ceux qui le refuseront l'amour. Après Sainte Catherine de Sienne, vous avez à peu près 300 ans. En 1587, Marie de l'Incarnation, Ursuline, elle était encore à Tours. En vision, elle voyait les immenses solitudes du Nouveau Monde avec des âmes qui se perdaient. Elle s'adressait au Père Céleste en disant « Ô Père, au nom de votre Fils, vous lui avez promis les nations en héritage, gentes tibi dabo in hereditatem, et vous ne lui avez pas encore donné. Je postule pour les intérêts de mon époux. » Plus proche de nous, nous avons Sainte Thérèse de Lisieux. Dans les premiers récits de son journal, elle raconte comment elle commence à sortir de la chrysalide de l'enfance. Qu'est-ce que donnera l'hypersensibilité d'une enfant élevée dans une serre? Un jour, elle a entendu son père dire « C'est la dernière fois qu'on lui met quelque chose dans ses souliers. » Ce fut une secousse intérieure. Elle a compris qu'elle n'avait été inconsciemment qu'une enfant, mais maintenant, elle sera quelqu'un de fort. Elle comprend la soif du salut du monde, la soif de Jésus sur la croix. C'est alors qu'elle apprend l'existence d'un assassin, Pranzini, qui avait assassiné 3 personnes. Il était en prison et on allait l'exécuter. Thérèse dit « Je ne demande pas qu'il se confesse, mais je demande un signe par quoi il sera sauvé. » Le lendemain, elle ouvre le journal La Croix. Au moment de mettre sa tête sur la guillotine, il s'est retiré et a baisé 3 fois le crucifix. Voilà la réponse au Scitio. Voici une autre prière faite devant une icône. Elle est rapportée dans un très beau livre très simple à lire, l'école de la prière. Le dernier chapitre contient une méditation sur 2 icônes de la Mère de Dieu. Toute prière à la Mère de Dieu signifie « Mère, j'ai tué ton fils, si tu me pardonnes, je puis être pardonné. Si tu retiens ton pardon, rien ne peut me sauver de la damnation. » Cette prière est splendide. Notre salut dépend de la Vierge Marie. Elle prie même pour les protestants qui ne la prient pas. Elle prie pour eux sans qu'ils le sachent. C'était la question que se posait le cardinal Newman. Il comprenait la grandeur de l'intercession de la Vierge. Les protestants ne sont pas abandonnés par la Vierge Marie, car elle prie pour eux, peut-être 2 fois plus intensément. Le métropolite Blum continue. L'auteur de l'école de la prière. Et il est vraiment surprenant que la Mère de Dieu, dans tout ce que l'Évangile nous révèle, nous ait fait comprendre en nous donnant l'audace de lui adresser cette prière que nous ne pouvons rien lui dire d'autre. Elle est pour nous la Mère de Dieu, elle est celle qui a introduit Dieu lui-même sur notre terre. C'est en ce sens que nous insistons sur l'expression « Mère de Dieu ». C'est par elle que Dieu s'est fait homme, c'est par elle qu'il est né dans notre condition humaine. Et elle n'est pas seulement pour nous l'instrument de l'incarnation, elle est celle dont l'abandon personnel à Dieu, l'amour pour Dieu, la disponibilité à tout ce que Dieu voulut d'elle, l'humilité, furent telles que Dieu put naître d'elle. Un de nos grands saints et théologiens remarque à son sujet « L'incarnation eût été tout aussi impossible sans le « Voici, la servante du Seigneur, de la Vierge Marie » que sans la volonté du Père. » Entrons maintenant, frères et sœurs, dans cette prière du chapelet en direct de la grotte de Massabielle à Lourdes.